Rien que pour eux en ce moment.
Ouais, c'est les mêmes. Donc, demain, si vous êtes sur Paris, vous pouvez aller les soutenir au 105-111 boulevard Brune à Paris. Voilà. Les accusivités.
Alors, de quoi on les accuse ?
On les accuse d'avoir bloqué les libertés de mouvement, je crois. On les accuse d'avoir
participé à un piquet de grève devant le PPDC de Perpignan du 21 mars au 6 avril.
Qui avait été jugé.
Un piquet appelé par l'intersyndicale des postiers du 66, dont la CNT est partie prenante, et approuvé par les AG des postiers du 66.
Voilà. Et qui a été jugé.
Voilà. Donc ces 6-là sont jugés pour l'ensemble, puisque ça a été fait par tous. Hein.
Et c'est une excellente conclusion provisoire à l'émission d'aujourd'hui, parce que là aussi, c'est de la répression. Même le droit de grève, visiblement, est contesté. Même s'ils perdent, hein, le fait même qu'ils contestent ce droit de grève, donc l'État, parce que la Poste, c'est l'État c'est un patron.
La justice aussi, la justice avait demandé à ce que le piquet soit levé.
Oui.
C'est suite à ça qu'ils ont été condamnés.
Voilà, donc on est sur de la criminalisation, effectivement, de l'action syndicale. Et donc, un abaissement des droits essentiels des travailleurs acquis de haute lutte. Je crois qu'effectivement, il faut penser à renverser la table.
Ouais.
On a dit que c'était pour septembre.
Oui, c'est vrai.
Donc du coup, tous ceux et celles qui ne sont pas syndiqués, ça vous laisse jusqu'à fin août pour vous syndiquer.
Oui, pour adhérer à la CNT.
Déjà.
Dans les syndicats de vos champs de syndicalisation respectifs.
Ouais, géographique.
Elle est sur le site de la CNT.f. F-F.
Voilà. Bon. Sinon, si sur Radio Libertaria, donc la CNT sur les ondes de Radio Libertaire, donc dans le cadre de Radio Libertaria, vous avez Éduc 93 qui anime l'émission le deuxième mardi. Donc ça devrait être le 11 juillet.
Mmh.
Voilà. Et service public aussi du camarade Bernard et du syndicat de l'énergie.
Que nous saluons.
Bah oui, on l'embrasse même. Lui donc, c'est le quatrième. Le quatrième mardi. Et ce sera, bon, on pourra refaire l'annonce. Mais le 18. Voilà. Bah, est-ce qu'ils sont pas tous en vacances? Hein? Toutes ces personnes. Bon. Voilà, vous pouvez toujours recevoir l'écho syndical de la région parisienne, de la CNT région parisienne, c'est le numéro 6, hein, pour contacter le bureau régional parisien de la CNT par mail, vous tapez, vous allez sur le site de Union régionale Paris.
Ça marche, je l'ai fait.
Ouais, voilà, donc c'est br.rp@cnt-f.org ou par courrier au 33 rue des Vignoles, 75 011 020 à Paris, pardon. Si vous souhaitez recevoir en format papier cet éco-syndical. Voilà, et vous pouvez aussi sur le site consulter le catalogue des éditions CNT-RP. Voilà, vous pouvez télécharger. C'est ce que tu as fait, toi, pour avoir.
Et la rubrique, oui, non, c'était en panne à ce moment-là. Et la rubrique de. La rubrique de l'éco-syndical, et qui n'est que sous forme papier, accessible.
Voilà. Bah, y en a qui l'ont.
Ouais.
Mais bon, faut avoir ses entrées.
Ah là là.
Voilà, sinon, il y a toujours les. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui seraient du côté de Montreuil, il y a toujours les cantines de la Brigade de solidarité populaire Montreuil-Bagnolet. Voilà, une entrée à prix libre et qui propose des repas complets, c'est tous les mardis. C'est solidaire, c'est autogéré. Et vous pouvez cuisiner dès 9h30 et le déjeuner à partir de 12h. Et vous avez la cantine des Gilets jaunes aussi, une cuisine collective, tous les mercredis de 9h30 à 12h30. Et pareil, ils peuvent participer. Voilà, les repas sont servis jusqu'à 14h30. Donc c'est à l'Aïrie de Montreuil, 57 rue Étienne Marcel, 93 100 Montreuil, France. Voilà. Non, c'est bien de le rappeler, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas dit.
C'est vrai.
Voilà, il y a des gens qui ne mangent pas quand même à leur faim, peut-être.
Ouais. Ou... Ça leur fait comme ça deux jours où ils pourront manger.
Et puis la misère, elle n'est pas meilleure ou plus supportable l'été que l'hiver.
Voilà.
Peut-être l'inverse, d'ailleurs.
Ouais.
Nous, on se retrouve le 17 juillet pour une émission culturelle. Donc tu seras là.
Avec Mickey.
Allez, je prends
avec
fort,
Mickey.
Je
donc ça sera plus détendu, il n'y a pas de chronique, il n'y a pas tout ça. Bon, on peut en faire une quand même. Mais moi,
qui nous présentera ses escargots.
Non, j'ai des courgettes en ce moment.
Ouais.
trop belle courgette.
Bon, bon, ben, bah, messieurs.
Bah, on va laisser la place au Proton se rebiff.
Voilà, j'en plus exactement au Muse s'amuse, mais c'est pas grave.
Mais, c'est vrai, mais je me croyais déjà 17, moi, tu vois. Et non, on est que le premier, c'est les Muses s'amuse, pardon.
Incidemment, j'en profite pour remercier Fabrice qui va lancer l'émission qui est préenregistrée parce que je suis totalement incapable de comprendre ce qui se passe dans ce studio.
Faut pas le dire.
Donc, mes remerciements au génie technique.
Oh, mais faut arrêter de lui polir le manche, là, parce qu'il
existence, ou même encore maintenant.
Bon, donc on se retrouve le 17. Lance
plus de gouvernement. Il faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de
tous.
Et chaque fraternel nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est, bien sûr, modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net. Net.
Fini niquer ses grands, l'art chanté sous les banderoles, le ras-le-bol s'exprime avec des pierres arrachées au sol.
C'est de l'essence dans un cocktail.
Quand je pense à toutes ces balances dans cette putain de France, je me dis qu'il n'y a pas de chance. Vu les manigances de cette putain de justice sur laquelle je pisse.
9-2, 9-3 en connexion sans limite. Juste un 8 pour que les keufs et la mort se marient.
C'était le serrurier d'un keuf, passe-moi les clés de chez lui. Pas le temps de faire des clés de cheville.
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Au Panthéon. Première partie, les tribulations de l'édifice.
Ce soir, nous allons parler du Panthéon, ce monument sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, ancienne église, mais dont la façade porte cette inscription très peu patriarcale, non, pas du tout. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, et non pas aux grandes femmes, la matrie reconnaissante. Qu'est-ce que c'est que le Panthéon ? C'est un lieu que la République essaye de rendre un peu sacré sur les bords, parce que c'était un lieu que la monarchie catholique considérait sacré depuis longtemps. Déjà en 508, Clovis, après avoir gagné la bataille de Vouillé, il fait construire sur le Mons Lucotitius, un site qui était déjà probablement pas mal sacroïde avec des temples païens, il fait construire une basilique qu'il fait dédier aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. On l'y enterre en 511, ce qui explique d'ailleurs qu'on ait la rue Clovis, qu'on a la tour Clovis pas loin. Mais il y avait également, sur cette colline, une petite chapelle, pas énorme, en bois, qui protégeait la sépulture de Sainte-Geneviève. Aïe, 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 qui était donc Sainte-Geneviève ? Ça n'est pas du tout une sainte mythologique, c'est un personnage historique, on est sûr qu'elle a existé. Elle était fille, on ne peut pas dire exactement de noble, le concept de noblesse en France n'existait plus depuis la chute de l'Empire romain, il n'existait pas encore à cause des rois, mais elle était la fille de gens très 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 riches qui possédaient par exemple en gros tout ce qui est devenu maintenant Nanterre. Elle a à peine 9 ans qu'elle décide qu'elle va se consacrer à Jésus. Bon, il n'y avait pas encore de bonne sœur, mais elle fait vœu de rester vierge. Alors, comme elle n'a que 9 ans, on trouve que c'est un peu tôt. Et on demande donc l'avis de deux évêques qui passaient par là, dont l'un qui sera Saint-Germain l'Auxerrois, enfin Saint-Germain tout court, donc il deviendra plus tard Saint-Germain l'Auxerrois, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-des-Prés, toutes les églises qu'on lui a dédiées. Et il décide que la petite Sainte-Geneviève, c'est tout bon, elle pourra être une vierge toute sa vie et donc pas se marier. Et cette vierge à poigne va apparemment sauver Paris de la famine en nourrissant les Parisiens grâce aux réserves de grains qui se trouvaient dans son domaine. Et puis, entre autres choses, quand Attila va menacer Paris, elle va rassurer les Parisiens, elle va prier Dieu que Attila ne rentre pas dans Paris. Et coup de bol, Attila ne rentre pas dans Paris. Bref, quand elle meurt, elle devient la seconde sainte patronne de Paris, puisque Saint-Denis était déjà le premier saint patron. Très rapidement, les Parisiens oublient la dédication Saint-Pierre et Saint-Paul de la Grande Église et décident que cette Grande Église, eh bien, ça s'appelle l'Église Sainte-Geneviève. Cette église et le modeste petit oratoire en bois vont être détruits par les Normands, mais les Normands ne toucheront pas à la châsse qui contenait les reliques de Sainte-Geneviève. On pourra reconstruire une église et ce deviendra une belle église gothique dans laquelle on garde donc la châsse de Sainte-Geneviève. Et quand il y a des gros problèmes dans Paris, petite épidémie de peste, de ceci, de cela, une menace extérieure, eh bien on balade la châsse tout autour de Paris. Et bien entendu, que se passe-t-il ? Tout le monde guérit, tout le monde danse joyeux et rend grâce au Seigneur. C'est de l'histoire améliorée. Alors, légèrement photoshopé ce que je viens de vous raconter. Et il va arriver que le jeune Louis XV tombe malade à Metz en 1744. Tombe gravement malade, il panique, il prie, ma foi, Sainte-Geneviève qu'elle le sauve. Et il est guéri. Quand il revient à Paris, eh bien, il vient à l'église Sainte-Geneviève. Et là, pas fou, l'abbé et les religieux, c'était une église abbatiale, lui disent, vous savez, notre église, elle tombe en ruine, s'il vous plaît, faites-la beaucoup plus grande. Louis XV accepte la requête en remerciement. C'est facile d'accepter quand on a les gens devant soi. Et pendant plus de 10 ans, il ne se passera rien. Et finalement, 10 ans plus tard, quand même un peu honteux, Louis XV décide de faire construire une nouvelle église, évidemment digne de son rang, donc qui va être une église extrêmement grande et qui sera donc le bâtiment que nous pouvons voir aujourd'hui. Il va avoir une idée fort intelligente. Il va utiliser comme architecte un jeune architecte up-to-date, un jeune architecte à la mode, Monsieur Soufflot. Dès 1760, eh bien, M. Soufflot va construire cet énorme bâtiment. Il va avoir un gros problème. Comme toutes les autres collines de Paris, eh bien, la montagne Sainte-Geneviève était parcourue d'anciennes galeries qui servaient à extraire le gypse dont on tirait le plâtre de Paris. Souvenons-nous qu'en anglais, on dit « plaster of Paris ». Et qui servait aussi à extraire les pierres de taille. Par conséquent, les fondations posent un gros problème et ça va considérablement retarder la construction du Panthéon, d'autant qu'évidemment, la taille gigantesque du bâtiment requérait des fondations d'autant plus solides. Le plan choisi par Soufflot est un plan très original pour la France de cette époque. En effet, au lieu de choisir un plan en croix latine, alors la croix latine, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a une branche beaucoup plus longue que les autres, hein, pour ressembler bien à la croix sur laquelle les chrétiens pensent que Jésus a été crucifié. Eh bien, au lieu de ce plan en croix latine, Soufflot veut faire un plan un peu plus à la mode, une croix grecque. Et une croix grecque, c'est une croix dont toutes les branches sont de longueur égale. Alors, en fait, dans le plan, il y a bien une branche qui est un petit peu plus grande que les autres, mais c'est quand même un plan en croix grecque. Et puis, au lieu de surmonter l'église des deux tours classiques des églises gothiques, voire de beaucoup d'églises baroques, eh bien, Soufflot, toujours pour faire moderne, va vouloir mettre un dôme sur cette église. Et c'est cette architecture qui ressemble infiniment moins à ce que les Français voient d'habitude comme une église, c'est-à-dire quand on pense à une église en France, on pense évidemment à une église gothique du style Notre-Dame ou Chartres ou Rouen. Et là, en revanche, ce plan, eh bien, ça n'est pas un plan qui évoque immédiatement un bâtiment religieux. C'est important de le souligner parce que ça va être l'une des raisons pour lesquelles la Révolution française va, en cherchant un lieu où inhumer les premiers grands héros de la Révolution, ils vont décider que le Panthéon est de grande taille, il est visible de très très loin, il est très beau, il n'est pas encore directement associé, en tout cas dans l'idée des révolutionnaires, à quelque chose de très ancien, et donc évidemment, il sera parfait pour pouvoir abriter les sépultures des grands hommes. À nouveau, les grandes femmes, ça n'existe pas. Soufflot meurt en 1780, c'est pas grave, on continue à construire à peu près sur le même plan, et c'est un monsieur qui s'appelle Rondelet qui va achever le lieu. Mais évidemment, quand la Révolution française se déclenche, comme vous le savez, l'Église catholique va évidemment se placer immédiatement du côté des privilégiés, du côté du passé, contre la Révolution française. Or, souvenons-nous que, un, les prêtres français, enfin pas seulement les prêtres français, mais en tout cas les prêtres en France faisaient preuve d'une hypocrisie monstrueuse. Officiellement, célibataires et sans enfants, ils avaient maîtresse et lourde famille. Et puis surtout, l'Église catholique possédait quasiment un tiers des terres françaises et officiellement ne payait aucun impôt, sauf quelque chose qui s'appelait le don gratuit et qui était effectivement une forme d'impôt, mais un impôt totalement volontaire. Plus les gens devaient payer la dîme, donc quand même 10% de leurs revenus au curé de leur paroisse. Par ailleurs, tout le monde savait que la majeure partie de cet argent partait dans les poches des évêques, des archevêques, des cardinaux, du pape, et que le curé en était réduit, et c'est là l'origine de l'expression, à la portion congrue. Donc, on voit avec raison l'Église comme une structure corrompue, même si on est un catholique croyant. Et puis, bien entendu, c'est tout d'un coup la Révolution française, c'est l'époque où les athées peuvent commencer à relever la tête, à dire plus ou moins publiquement qu'ils sont athées et que l'Église catholique est une institution abominable dont on n'a aucunement besoin. Louis XVI, ça ne lui plaît pas beaucoup, et l'une des raisons pour lesquelles la Révolution va se durcir, c'est que quand en particulier la Révolution va demander à ce que les prêtres catholiques prêtent serment de fidélité aux nouvelles institutions de la Révolution, comme le pape leur dit de ne pas prêter ce serment, eh bien, une large partie, probablement la vaste majorité des prêtres, refusent de prêter serment, donc s'exilent ou deviennent clandestins, et ça commence à tourner vinaigre pour l'Église catholique. L'une des choses que l'on va faire, eh bien, on va envahir systématiquement les églises et on va détruire toutes les reliques, qui étaient des symboles très clairs de la superstition, de la bêtise de la religion. Et bien entendu, les reliques les plus haïes, les plus lamentables, c'était celles qui combinaient à la fois la superstition catholique et l'oppression royale. Donc, toutes les reliques reliées de près ou de loin à la famille royale vont être détruites. Donc, bien entendu, que fait-on ? On entre dans la dite église Sainte-Geneviève, on ouvre la chasse, on détruit complètement les reliques et le cercueil de Sainte-Geneviève, et on va décider de transformer cet énorme bâtiment en un panthéon. La raison immédiate, ce fut la mort de Mirabeau. Maintenant, nous savons que malheureusement, Mirabeau était quelqu'un à l'honnêteté relativement douteuse, il mangeait aux deux râteliers, membre de l'Assemblée, auteur plus ou moins exact de la célèbre phrase « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Mais Mirabeau renseignait la cour sur les projets des révolutionnaires. Mais ça, on ne le sait pas encore quand il meurt le 2 avril 1791, et on veut faire de sa tombe un grand temple. Évidemment, on n'était pas encore sorti des schémas de pensée religieux. Et puis tant qu'à faire, on se dit, ben, il y aura d'autres grands hommes en France, et par conséquent, on va décider qu'on va transformer cet énorme édifice de l'église Sainte-Geneviève en panthéon. C'est à ce moment-là qu'on propose de graver sur le fronton la fameuse inscription « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ».
Sorry.
va lancer un programme de décoration qui va bien entendu s'opposer au dogme catholique. Et je vais expliquer dans quelques instants que c'est très amusant de visiter le Panthéon parce qu'on y voit des strates successives. On voit, pas le, mais les programmes catholico-royalisto-chauvinisto-nationalistes et on voit les programmes républicains. C'est tout à fait curieux quand on entre dans le Panthéon, armé soit d'un guide, soit des connaissances historiques solides que l'on a, et qu'on voit ce mélange de deux programmes iconographiques totalement différents. Entre 1791 et 1794, on va donc transférer, outre celle de Mirabeau, les cendres ou les corps de grands hommes. Un grand homme qui y est encore, Voltaire. Je sais bien, Voltaire, bourgeois, pas vraiment ami des prolétaires, mais qui a quand même rendu un grand service en attaquant l'Église catholique et surtout en s'en moquant. Je me permettrai de signaler que la propagande anarchiste ces jours-ci n'est absolument pas drôle. Bon, je sais bien, l'actualité n'est pas drôle, mais enfin, elle n'était pas drôle non plus au temps de Voltaire, et que l'humour est de très très loin l'une des armes politiques les plus efficaces. Donc, Voltaire. On va aussi mettre au Panthéon un monsieur qui s'appelle Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui était tout simplement l'un des députés de la noblesse qui avait voté la mort de Louis XVI, et l'un des gardes du corps de Louis XVI, furieux, cherche monsieur Le Pelletier de Saint-Fargeau, lui flanque un coup de poignard, mais la Révolution, outragée et outrée, décide d'enterrer Le Pelletier de Saint-Fargeau au Panthéon. On va également enterrer l'un des grands penseurs de la démocratie, Jean-Jacques Rousseau, citoyen suisse, mais bon, c'est pas grave, on décide qu'il est français, et on va donc le mettre là, je vous dirai également un peu plus tard, qu'il est en face de Voltaire. Ce que Voltaire aurait adoré, quand ils étaient tous les deux vivants, Voltaire a très souvent essayé d'obtenir l'amitié de Jean-Jacques Rousseau, mais Rousseau, vous le savez sans doute, était largement paranoïaque, a toujours absolument refusé cette amitié proposée par Voltaire. Et puis, on va également, après l'assassinat par Charlotte Corday de Marat, transférer les cendres de Marat au Panthéon. Seulement, voilà, on va, un, s'apercevoir que Mirabeau avait trahi, et après le 9 Thermidor, Marat est vu comme un affreux bourreau sanguinaire aux mains dégoulinant de sang, et on va donc décider d'expulser les cendres tant de Mirabeau que de Marat. Puis, sous le directoire, on est un petit peu inquiet, non pas du tout du point de vue politique, mais parce que on s'aperçoit des premiers problèmes, et ça, ça va être une constante de l'histoire du Panthéon, des premiers problèmes de stabilité de l'édifice. À nouveau, eh bien, c'est tout simplement parce que ça a été construit sur tout un tas de galeries, donc de trous, et ces galeries ont loin d'avoir été toutes comblées. Et donc, encore très récemment, la dernière restauration du Panthéon, qui a eu lieu à peine il y a quelques années, avait pour but de contribuer à restabiliser l'édifice. Comme vous le savez, on a eu un petit corse qui nous a bien embêtés, Napoléon Bonaparte. Napoléon, qui vise à établir une dynastie permanente, Napoléon qui n'est pas un fou, enfin du moins pas entièrement un fou, sait pertinemment que les royautés ont absolument besoin du soutien de la religion ou des religions. Et alors que la France avait plus ou moins réussi pendant la Révolution à se débarrasser en grande mesure de l'Église catholique, Napoléon va la faire revenir en France parce qu'il veut qu'elle soutienne lui et son régime. Donc c'est le fameux concordat. Pour plaire à l'Église catholique, eh bien Napoléon décide qu'on va rétablir le culte dans l'Église. Il n'ose pas quand même virer les cadavres de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, ni même de celui de Le Pelletier de Saint-Fargeau. Alors il réfléchit un peu et puis il dit « Mais le Panthéon va servir de sépulture à mes grands dignitaires, à mes grands serviteurs de mon empire. » Et de fait, on a, c'est la partie de loin la moins intéressante de tout le Panthéon, on a dans les cryptes toute une série de gars généraux, colonels, etc., qui ont été effectivement des gens qui ont beaucoup servi à maintenir l'empire de ce mégalomane. En 1816, Louis XVIII, de retour au pouvoir, ratifie la décision de Napoléon Ier de conserver le bâtiment comme une église catholique. Donc, on va commander à François Gérard des peintures glorifiant la religion catholique et la monarchie pour les pendentifs de la coupole. Incidemment, Napoléon Ier avait lui aussi commandé des peintures plus ou moins dans ce genre-là, mais évidemment qui ne glorifiait pas la royauté, mais qu'il essayait de le glorifier lui de manière un peu indirecte. Il avait commandé ça à Antoine Gros, dont il fera plus tard un baron. Quand même, on décide que l'Église avait été souillée par les affreux révolutionnaires. Et en 1822, le jour anniversaire de la mort de Louis XVI, du jour où Louis XVI avait gravi l'escalier de l'abbaye de Mont-à-Regret, un joli petit surnom donné à la guillotine sous la Révolution, vous savez qu'on l'appelait aussi le rasoir national, eh bien ce jour-là, on procède à une nouvelle consécration de l'Église. En 1829, eh bien quand même, on est gentil envers M. Soufflot, l'architecte, et on va donc l'inhumer dans la crypte. Mais voilà, Louis XVIII meurt en 1824. Il est remplacé par des trois frères, Louis XVI, Louis XVIII et lui-même. Il est remplacé par Charles X, le plus bête des trois frères. Tellement bête qu'il veut que la France retourne à l'état dans lequel elle était en 1788, que ça ne plaît ni au peuple ni à la bourgeoisie. Et en juillet, un peu avant juillet 1830, il prend des ordonnances d'une grande brutalité à l'égard de la presse. Alors c'est pas que la presse était particulièrement anarchiste ou communiste à l'époque, mais même la presse bourgeoise se trouvait muselée. Et il va y avoir tout d'un coup une insurrection spontanée qui devient très vite une révolution. Et on sait qu'en deux jours, Charles X, prenant la mesure des événements, fiche le camp en exil. Vous inquiétez pas, un exil où il emmenait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors j'ai parlé de deux jours. Or, vous savez qu'il y a les trois glorieuses. Alors c'est au deuxième jour que l'affreux petit bonhomme Adolphe Thiers, oui, un prénom prédestiné, Adolphe Thiers, donc à l'époque encore tout jeune, va voir Louis-Philippe, qui était alors simplement un prince de la maison d'Orléans, lui dit « Ah, il y a un vide du pouvoir, vous avez 24 heures pour grimper sur un cheval blanc, arriver à l'hôtel de ville et dire « C'est moi qui m'occupe de tout ». Louis-Philippe avait très peur, mais quand même, il se dit, quand même, Thiers a raison. Donc, il monte sur un cheval blanc, il va à l'hôtel de ville, il se proclame lieutenant général du royaume et un peu plus tard, roi, non pas de France, mais des Français. Louis-Philippe, c'est Macron, en gros. C'est-à-dire que Louis-Philippe, officiellement, veut plaire à tout le monde, à la droite comme à la gauche. Bon, ça ne trompe personne, tout le monde sait que tant Louis-Philippe que Macron sont des hommes de droite. Mais disons qu'au début, Louis-Philippe veut faire une petite faveur à la gauche qui, après tout, quand même, a largement contribué à le porter au pouvoir. Et donc, on rend le Panthéon à sa mission de nécropole des grands hommes. La tête vous tourne ? Vous inquiétez pas, elle va vous tourner encore plus dans les minutes qui vont suivre. Donc souvenons-nous, tout d'abord église catholique dédiée à Sainte Geneviève, puis panthéon des grands hommes par la Révolution, puis rendu au culte, mais en même temps sépulture des dignitaires de l'Empire par Napoléon Ier, puis complètement rendu au culte catholique par Louis XVIII, et maintenant rendu aux grands hommes par Louis-Philippe. En 1848, deuxième révolution, celle-là nettement plus intelligente, où on vire à coup de pompe dans le train le bon Louis-Philippe, et de temple des grands hommes, le Panthéon devient temple de l'humanité. Mais attention, on va avoir l'installation alors d'abord du pendule de Léon Foucault. À l'époque, c'était vraiment juste purement une expérience scientifique, mais la réinstallation du pendule de Foucault en 1907, plus tard en 1995, répondra dans les deux cas à une intention politique très claire, celle de la laïcité. On en reparlera un peu plus tard.
On rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. En bas des tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec, salade, tomate, oignon, moitié légumes, moitié schneck. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse-Lautrec? Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Vénus au bras d'un aigu sous la scandaleuse promesse d'un mariage temporaire derrière un abribus. Si l'interdit participe à l'ardeur du désir, sans doute, s'il y avait bienveillance, il n'y aurait pas d'humeur hystérique. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. À l'époque je me disais, comment pourrais-je m'aimer? Si sans cesse je dois lutter, comment pouvais-je t'aimer? Si sans cesse je luttais, je luttais. Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer? Si sans cesse je luttais, je luttais. À l'époque je me disais, comment pourrais-je m'aimer? Si sans cesse je dois lutter, comment pouvais-je t'aimer? Si sans cesse je luttais, je luttais. Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer? Si sans cesse je luttais, je luttais.
On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on bombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on bombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on bombe sous ces décombres.
On crève à s'user, l'âme torréfiée sous l'effet couplé des addictions et des renoncements. Ignoré, on constate juste l'avilissement. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, garçon. Dire que nous étions censés la faire, la révolution. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. De vieilles villes frigides qui se la jouent, banlieue lascive, se dénudent à loisir sur les plages naturistes du oui-dire. Les seins nus, qu'en pensent-ils les injustices que subissent les plus fragiles? Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée.
À l'époque je me disais, comment pourrais-je m'aimer? Si sans cesse je dois lutter, comment pouvais-je t'aimer? Si sans cesse je luttais, je luttais. Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer? Si sans cesse je luttais, je luttais. À l'époque je me disais, comment pourrais-je m'aimer? Si sans cesse je dois lutter, comment pouvais-je t'aimer? Si sans cesse je luttais, je luttais. Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer? Si sans cesse je luttais, je luttais. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on bombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, on prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on bombe sous ces décombres. On a vu nos potes
se faire fumer. On prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor en pompe, sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer. On prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor en pompe, sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer. On prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor en pompe, sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer. On prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor en pompe, sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer. On prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor en pompe, sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer. On prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor en pompe, sous ces décombres.
En 1851, Louis-Napoléon Bonaparte devient le 2 décembre 1851, il devient Napoléon III. Donc c'était pareil, au départ il nous la faisait Macron, je suis le président de tous les Français. Pas du tout, je suis l'empereur des Français de droite. Et par conséquent, Napoléon III rend l'édifice du Panthéon à l'église catholique qui redevient donc l'église Sainte-Geneviève. La tête continue à vous tourner. Même en 1853, on va remettre dans le Panthéon la châsse de Sainte-Geneviève, il ne restait plus que ça. 1871, la Commune de Paris. Pendant la Commune, on ne s'occupe pas beaucoup de l'église Sainte-Geneviève, mais enfin on l'occupe. Et puis, tant qu'à faire, la restauration, c'est-à-dire Louis XVIII qui avait fait remettre une croix catholique tout en haut du dôme, eh ben, on la scie. Bon, comme vous le savez, après la Commune vient l'abominable Semaine sanglante, vient le retour de l'ordre moral, et en 1873, donc MacMahon au pouvoir, l'ordre moral, et on remet donc une croix de pierre au sommet du dôme. 1875, le Conseil de Paris voudrait bien qu'on remette l'Église comme panthéon des grands hommes. Et alors, ce qui va aider à visser, verrouiller l'usage du Panthéon comme nécropole des grands hommes, eh bien, c'est la mort de Victor Hugo. Mort de Victor Hugo en 1885, et Victor Hugo, évidemment, gloire nationale. Alors, je rappelle que Victor Hugo a suivi un parcours politique qui ressemble pas mal au parcours, on va dire, de la majorité de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie française. Quand il est tout gamin, il est encore très royaliste, et puis il se rend compte que la royauté est quand même très méchante. Souvenons-nous que Victor Hugo va être contre la peine de mort absolument toute sa vie, alors que là, tous les rois de France ont évidemment toujours été pour la peine de mort. Et petit à petit, Victor Hugo va aller vers la gauche. Alors il n'ira jamais complètement vers l'extrême gauche. Néanmoins, souvenons-nous qu'il va œuvrer pour que Louise Michel ne soit pas fusillée. Il va la soutenir quand même quand elle sera en Nouvelle-Calédonie, et il va croire lui faire le plus beau cadeau possible en écrivant un poème qu'il va intituler « Viro Major », c'est-à-dire un grand homme, en parlant de Louise Michel, une femme. C'était une bonne intention. Le féminisme et Victor Hugo, c'était encore un petit peu compliqué. Toujours est-il que quand il meurt en 1885, il est vu à la fois comme notre plus grand poète, notre plus grand romancier, notre plus grand homme de théâtre, et comme surtout un symbole de la résistance à Napoléon III, puisque souvenez-vous, à peine quelques jours après le coup d'État de Napoléon III, il part en exil, il s'installe en Belgique, puis ensuite à Jersey et Guernsey, et même quand Napoléon III l'amnistie et lui dit que tout est pardonné, qu'il peut revenir et que la soupe est chaude et l'attend à la maison, Victor Hugo dit niette et ne reviendra que 2 jours après l'abdication de Napoléon III. Quand il est finalement inhumé au Panthéon, eh bien, ça y est, on décide que le Panthéon, c'est là où seront les grands hommes. Alors, en 1945, on va reprendre les inhumations de grands hommes. Et vous savez qu'on aura, sous De Gaulle en particulier, on va en reparler, l'inhumation de Jean Moulin, probablement le moment, avec celle de Victor Hugo, le moment le plus extraordinaire, le plus grandiose de toute la vie de l'édifice.
Radio Libertaire, les muses s'amusent.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes aux larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par aventure, les complaisants, les décorés, gens de bourse et de coin de rue, amants de filles au rebut, grouilleux comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus.
On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de rois et d'empereurs.
Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Nous voilà rendus aux jésuites, aux MacMahon du Pont-Loup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance, et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera.
Demain, les Manon, les Lorette et les dames des beaux faubourgs porteront sur leurs collerettes des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants.
Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans peur
sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés.
Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail?
À quand enfin la République de la justice et du travail?
Oui, mais ça prend le dans le manche, les mauvais jours finiront. Égal à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
On sait également qu'il y a eu en revanche un moment que nous serions fort tentés de qualifier de clownesque. En 1981, après sa victoire, Mitterrand surprend tout le monde, car au lieu de faire quelque chose qui soit tourné vers l'avenir, vers l'espérance, vers la jeunesse, vers les pauvres, enfin bref, il y avait tout un tas de choses, tout un tas de gestes symboliques qu'il aurait pu faire, il a l'idée un petit peu bizarre d'entrer seul dans le Panthéon, trois roses à la main, qu'il va déposer sur, en particulier, la tombe de Jean Jaurès, à hommage au Parti Socialiste, comme on sait, Mitterrand était socialiste, comme je suis catholique, et puis, un peu à la surprise générale aussi, sur la tombe de Victor Schœlcher, l'homme qui a fait décider la libération définitive des esclaves sur l'intégralité des territoires placés sous le contrôle de la France. Et puis, on aura récemment, bien entendu, tout un tas de petites aventures, avec comme dernière aventure, eh bien, celle de Joséphine Baker. Bien entendu, nos derniers lamentables présidents, c'est pas qu'avant c'était tellement mieux, mais les trois crétins, Sarkozy, Hollande et Macron, voulaient absolument mettre des gens dans le Panthéon, parce que finalement la gloire des panthéonisés rejaillit sur le président qui les a panthéonisés. On va vouloir mettre encore de nouvelles personnalités, mais les femmes vont râler et dire « bon, la patrie, les grands hommes, ça va bien comme ça, on veut des femmes ». Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu trois femmes récemment panthéonisées, on va en reparler. Et vous savez que la dernière, ça a été Joséphine Baker, qui en fait n'est pas au Panthéon. La famille a refusé que la dépouille de Joséphine Baker soit envoyée au Panthéon. En revanche, il y a bien dans la crypte marqué Joséphine Baker, pour rendre hommage à cette femme noire américaine, noire états-unienne, pour faire plaisir à Christiane, noire états-unienne, qui est devenue célèbre en venant danser à Paris dans l'entre-deux-guerres, qui est restée à Paris sous l'occupation, qui a eu la chance de ne pas se faire tuer par les nazis, qui étaient évidemment racistes, j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais qui a profité de son statut de célébrité pour aider la résistance et en particulier pour porter constamment des messages d'un point à un autre de Paris pendant toute l'occupation.
Thank you.
poems are long forgotten now, but still here I must stay. I sit here in my lonely cell and watch the world go by. Condemned to rage inside this cage until the day I die.
Serge Gainsbourg,
Frédéric Chopin par Marie-Louise Nézet, Abdelmalik, Le Jeune Noir à l'épée, Serge Girouillo, La Semaine Sanglante, Iggy Pop, The Prisoner.
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Au Panthéon. Première partie, les tribulations de l'édifice.
Ce soir, nous allons parler du Panthéon, ce monument sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, ancienne église, mais dont la façade porte cette inscription très peu patriarcale, non, pas du tout, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, et non pas aux grandes femmes, la matrie reconnaissante. Qu'est-ce que c'est que le Panthéon ? C'est un lieu que la République essaye de rendre un peu sacré sur les bords, parce que c'était un lieu que la monarchie catholique considérait sacré depuis longtemps. Déjà en 508, Clovis, après avoir gagné la bataille de Vouillé, il fait construire sur le Mons Lucotitius, un site qui était déjà probablement pas mal sacroïde avec des temples païens, il fait construire une basilique qu'il fait dédier aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. On l'y enterre en 511, ce qui explique d'ailleurs qu'on ait la rue Clovis, qu'on a la tour Clovis pas loin, mais il y avait également sur cette colline une petite chapelle, pas énorme, en bois, qui protégeait la sépulture de Sainte-Geneviève. Aïe, 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 qui était donc Sainte-Geneviève ? Ça n'est pas du tout une sainte mythologique, c'est un personnage historique, on est sûr qu'elle a existé. Elle était fille, on ne peut pas dire exactement de noble, le concept de noblesse en France n'existait plus depuis la chute de l'Empire romain, il n'existait pas encore à cause des rois, mais elle était la fille de gens très 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 riches, qui possédaient par exemple, en gros, tout ce qui est devenu maintenant Nanterre. Elle a à peine 9 ans qu'elle décide qu'elle va se consacrer à Jésus. Bon, il n'y avait pas encore de bonne sœur, mais elle fait vœu de rester vierge. Alors, comme elle n'a que 9 ans, on trouve que c'est un peu tôt. Et on demande donc l'avis de deux évêques qui passaient par là, dont l'un qui sera Saint-Germain l'Auxerrois, enfin Saint-Germain tout court, donc qui deviendra plus tard Saint-Germain l'Auxerrois, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-des-Prés, toutes les églises qu'on lui a dédiées. Et il décide que la petite Sainte-Geneviève, c'est tout bon, elle pourra être une vierge toute sa vie et donc pas se marier. Et cette vierge à poigne va apparemment sauver Paris de la famine en nourrissant les Parisiens grâce aux réserves de grains qui se trouvaient dans son domaine. Et puis, entre autres choses, quand Attila va menacer Paris, elle va rassurer les Parisiens, elle va prier Dieu que Attila ne rentre pas dans Paris et, coup de bol, Attila ne rentre pas dans Paris. Bref, quand elle meurt, elle devient la seconde sainte patronne de Paris, puisque Saint-Denis était déjà le premier saint patron. Très rapidement, les Parisiens oublient la dédication à Saint-Pierre et Saint-Paul de la Grande Église et décident que cette Grande Église, eh bien, ça s'appelle l'Église Sainte-Geneviève. Cette église et le modeste petit oratoire en bois vont être détruits par les Normands, mais les Normands ne toucheront pas à la châsse qui contenait les reliques de Sainte-Geneviève. on pourra reconstruire une église et ce deviendra une belle église gothique dans laquelle on garde donc la châsse de Sainte-Geneviève. Et quand il y a des gros problèmes dans Paris, petite épidémie de peste, de ceci, de cela, une menace extérieure, eh bien on balade la châsse tout autour de Paris. Et bien entendu, que se passe-t-il? Tout le monde guérit, tout le monde danse joyeux et rend grâce au Seigneur. C'est de l'histoire améliorée. Alors, légèrement photoshopé ce que je viens de vous raconter. Et il va arriver que le jeune Louis XV tombe malade à Metz en 1744. Tombe gravement malade, il panique, il prie, ma foi, Sainte Geneviève qu'elle le sauve. Et il est guéri. Quand il revient à Paris, eh bien, il vient à l'église Sainte-Geneviève. Et là, pas fou, l'abbé et les religieux, c'était une église abbatiale, lui disent, vous savez, notre église, elle tombe en ruine, s'il vous plaît, faites-la beaucoup plus grande. Louis XV accepte la requête en remerciement. C'est facile d'accepter quand on a les gens devant soi. Et pendant plus de 10 ans, il ne se passera rien. Et finalement, 10 ans plus tard, quand même un peu honteux, Louis XV décide de faire construire une nouvelle église, évidemment digne de son rang, donc qui va être une église extrêmement grande et qui sera donc le bâtiment que nous pouvons voir aujourd'hui. Il va avoir une idée fort intelligente. Il va utiliser comme architecte un jeune architecte up-to-date, un jeune architecte à la mode, Monsieur Soufflot. Dès 1760, eh bien, M. Soufflot va construire cet énorme bâtiment.
Thank you.
Il va avoir un gros problème. Comme toutes les autres collines de Paris, eh bien, la montagne Sainte-Geneviève était parcourue d'anciennes galeries qui servaient à extraire le gypse dont on tirait le plâtre de Paris. Souvenons-nous qu'en anglais, on dit « plaster of Paris ». Et qui servaient aussi à extraire les pierres de taille. Par conséquent, les fondations posent un gros problème et ça va considérablement retarder la construction du Panthéon, d'autant qu'évidemment, la taille gigantesque du bâtiment requérait des fondations d'autant plus solides. Le plan choisi par Soufflot est un plan très original pour la France de cette époque. En effet, au lieu de choisir un plan en croix latine, alors la croix latine, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a une branche beaucoup plus longue que les autres, hein, pour ressembler bien à la croix sur laquelle les chrétiens pensent que Jésus a été crucifié. Eh bien, au lieu de ce plan en croix latine, Soufflot veut faire un plan un peu plus à la mode, une croix grecque. Et une croix grecque, c'est une croix dont toutes les branches sont de longueur égale. Alors, en fait, dans le plan, il y a bien une branche qui est un petit peu plus grande que les autres, mais c'est quand même un plan en croix grecque. Et puis, au lieu de surmonter l'église des deux tours classiques des églises gothiques, voire de beaucoup d'églises baroques, eh bien, Soufflot, toujours pour faire moderne, va vouloir mettre un dôme sur cette église. Et c'est cette architecture qui ressemble infiniment moins à ce que les Français voient d'habitude comme une église, c'est-à-dire quand on pense à une église en France, on pense évidemment à une église gothique du style Notre-Dame ou Chartres ou Rouen. Et là, en revanche, ce plan, eh bien, ça n'est pas un plan qui évoque immédiatement un bâtiment religieux. C'est important de le souligner parce que ça va être l'une des raisons pour lesquelles la Révolution française va, en cherchant un lieu où inhumer les premiers grands héros de la Révolution, ils vont décider que le Panthéon est de grande taille, il est visible de très très loin, il est très beau, il n'est pas encore directement associé, en tout cas dans l'idée des révolutionnaires, à quelque chose de très ancien, et donc évidemment, il sera parfait pour pouvoir abriter les sépultures des grands hommes. À nouveau, les grandes femmes, ça n'existe pas. Soufflot meurt en 1780, c'est pas grave, on continue à construire à peu près sur le même plan, et c'est un monsieur qui s'appelle Rondelet qui va achever le lieu. Mais évidemment, quand la Révolution française se déclenche, comme vous le savez, l'Église catholique va évidemment se placer immédiatement du côté des privilégiés, du côté du passé, contre la Révolution française. Or, souvenons-nous que, un, les prêtres français, enfin pas seulement les prêtres français, mais en tout cas les prêtres en France faisaient preuve d'une hypocrisie monstrueuse. Officiellement célibataires et sans enfants, ils avaient maîtresse et lourde famille. Et puis surtout, l'Église catholique possédait quasiment un tiers des terres françaises et officiellement ne payait aucun impôt, sauf quelque chose qui s'appelait le don gratuit et qui était effectivement une forme d'impôt, mais un impôt totalement volontaire. Plus les gens devaient payer la dîme, donc quand même 10% de leurs revenus au curé de leur paroisse. Par ailleurs, tout le monde savait que la majeure partie de cet argent partait dans les poches des évêques, des archevêques, des cardinaux, du pape, et que le curé en était réduit, et c'est là l'origine de l'expression, à la portion congrue. Donc, on voit avec raison l'Église comme une structure corrompue, même si on est un catholique croyant. Et puis, bien entendu, c'est tout d'un coup la Révolution française, c'est l'époque où les athées peuvent commencer à relever la tête, à dire plus ou moins publiquement qu'ils sont athées et que l'Église catholique est une institution abominable dont on n'a aucunement besoin. Louis XVI, ça ne lui plaît pas beaucoup, et l'une des raisons pour lesquelles la Révolution va se durcir, c'est que quand en particulier la Révolution va demander à ce que les prêtres catholiques prêtent serment de fidélité aux nouvelles institutions de la Révolution, comme le pape leur dit de ne pas prêter ce serment, Eh bien, une large partie, probablement la vaste majorité des prêtres, refusent de prêter serment, donc s'exilent ou deviennent clandestins, et ça commence à tourner vinaigre pour l'Église catholique. L'une des choses que l'on va faire, eh bien, on va envahir systématiquement les églises et on va détruire toutes les reliques, qui étaient des symboles très clairs de la superstition, de la bêtise de la religion. Et bien entendu, les reliques les plus haïes, les plus lamentables, c'était celles qui combinaient à la fois la superstition catholique et l'oppression royale. Donc toutes les reliques reliées de près ou de loin à la famille royale vont être détruites. Donc bien entendu, que fait-on ? On entre dans la dite église Sainte-Geneviève, on ouvre la chasse, on détruit complètement les reliques et le cercueil de Sainte-Geneviève, et on va décider de transformer cet énorme bâtiment en un panthéon. La raison immédiate, ce fut la mort de Mirabeau. Maintenant, nous savons que malheureusement, Mirabeau était quelqu'un à l'honnêteté relativement douteuse. Il mangeait aux deux râteliers, membre de l'Assemblée, auteur plus ou moins exact de la célèbre phrase « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Mais Mirabeau renseignait la cour sur les projets des révolutionnaires. Mais ça, on ne le sait pas encore quand il meurt le 2 avril 1791, et on veut faire de sa tombe un grand temple. Évidemment, on n'était pas encore sorti des schémas de pensée religieux. Et puis tant qu'à faire, on se dit il y aura d'autres grands hommes en France, et par conséquent, on va décider qu'on va transformer cet énorme édifice de l'église Sainte-Geneviève en panthéon. C'est à ce moment-là qu'on propose de graver sur le fronton la fameuse inscription « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ».
Leur vertu. Au sol, etc.
va lancer un programme de décoration qui va bien entendu s'opposer au dogme catholique. Et je vais expliquer dans quelques instants que c'est très amusant de visiter le Panthéon parce qu'on y voit des strates successives. On voit pas le, mais les programmes catholico-royalisto-chauvinisto-nationalistes et on voit les programmes républicains. C'est tout à fait curieux quand on entre dans le Panthéon, armé soit d'un guide, soit des connaissances historiques solides que l'on a, et qu'on voit ce mélange de deux programmes iconographiques totalement différents. Entre 1791 et 1794, on va donc transférer, outre celle de Mirabeau, les cendres ou les corps de grands hommes. Un grand homme qui y est encore, Voltaire. Je sais bien, Voltaire, bourgeois, pas vraiment ami des prolétaires, mais qui a quand même rendu un grand service en attaquant l'Église catholique et surtout en s'en moquant. Je me permettrai de signaler que la propagande anarchiste ces jours-ci n'est absolument pas drôle. Bon, je sais bien, l'actualité n'est pas drôle, mais enfin, elle n'était pas drôle non plus au temps de Voltaire, et que l'humour est de très très loin l'une des armes politiques les plus efficaces. Donc, Voltaire. On va aussi mettre au Panthéon un monsieur qui s'appelle Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui était tout simplement l'un des députés de la noblesse qui avait voté la mort de Louis XVI, et l'un des gardes du corps de Louis XVI, furieux, cherche monsieur Le Pelletier de Saint-Fargeau, lui flanque un coup de poignard, mais la révolution outragée et outrée décide d'enterrer Le Pelletier de Saint-Fargeau au Panthéon. On va également enterrer l'un des grands penseurs de la démocratie, Jean-Jacques Rousseau, citoyen suisse, mais bon, c'est pas grave, on décide qu'il est français, et on va donc le mettre là, je vous dirai également un peu plus tard, qu'il est en face de Voltaire. Ce que Voltaire aurait adoré, quand ils étaient tous les deux vivants, Voltaire a très souvent essayé d'obtenir l'amitié de Jean-Jacques Rousseau, mais Rousseau, vous le savez sans doute, était largement paranoïaque, a toujours absolument refusé cette amitié proposée par Voltaire. Et puis, on va également, après l'assassinat par Charlotte Corday de Marat, transférer les cendres de Marat au Panthéon. Seulement, voilà, on va, un, s'apercevoir que Mirabeau avait trahi, et après le 9 Thermidor, Marat est vu comme un affreux bourreau sanguinaire aux mains dégoulinant de sang, et on va donc décider d'expulser les cendres tant de Mirabeau que de Marat.
Thank you.
Puis, sous le directoire, on est un petit peu inquiet, non pas du tout du point de vue politique, mais parce que on s'aperçoit des premiers problèmes, et ça, ça va être une constante de l'histoire du Panthéon, des premiers problèmes de stabilité de l'édifice. À nouveau, eh bien, c'est tout simplement parce que ça a été construit sur tout un tas de galeries, donc de trous, et ces galeries ont loin d'avoir été toutes comblées. Et donc, encore très récemment, la dernière restauration du Panthéon, qui a eu lieu à peine il y a quelques années, avait pour but de contribuer à restabiliser l'édifice. Comme vous le savez, on a eu un petit corse qui nous a bien embêtés, Napoleone Buonaparte. Napoléon, qui vise à établir une dynastie permanente, Napoléon, qui n'est pas un fou, enfin du moins pas entièrement un fou, sait pertinemment que les royautés ont absolument besoin du soutien de la religion ou des religions. Et alors que la France avait plus ou moins réussi pendant la Révolution à se débarrasser en grande mesure de l'Église catholique, Napoléon va la faire revenir en France parce qu'il veut qu'elle soutienne lui et son régime. Donc c'est le fameux concordat. Pour plaire à l'Église catholique, eh bien Napoléon décide qu'on va rétablir le culte dans l'Église. Il n'ose pas quand même virer les cadavres de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, ni même de celui de Le Pelletier de Saint-Fargeau. Alors il réfléchit un peu et puis il dit « Mais le Panthéon va servir de sépulture à mes grands dignitaires, à mes grands serviteurs de mon empire. » Et de fait, on a, c'est la partie de loin la moins intéressante de tout le Panthéon, on a dans les cryptes toute une série de gars généraux, colonels, etc., qui ont été effectivement des gens qui ont beaucoup servi à maintenir l'empire de ce mégalomane. En 1816, Louis XVIII, de retour au pouvoir, ratifie la décision de Napoléon Ier de conserver le bâtiment comme une église catholique. Donc, on va commander à François Gérard des peintures glorifiant la religion catholique et la monarchie pour les pendentifs de la coupole. Incidemment, Napoléon Ier avait lui aussi commandé des peintures plus ou moins dans ce genre-là, mais évidemment qui ne glorifiaient pas la royauté, mais qu'il essayait de le glorifier lui de manière un peu indirecte. Il avait commandé ça à Antoine Gros, dont il fera plus tard un baron. Quand même, on décide que l'Église avait été souillée par les affreux révolutionnaires. Et en 1822, le jour anniversaire de la mort de Louis XVI, du jour où Louis XVI avait gravi l'escalier de l'abbaye de Montparnasse, je ne sais pas si vous allez me donner à la question. Et bien, ce jour-là, la nouvelle consécration de l'Église.
Avec le vent, ça chante doucement. Oh, nuit, Notre vie est un voyage comme veille dans la nuit. Notre vie est un voyage comme veille dans la nuit. Notre vie est un voyage. Notre vie est un voyage. Notre vie est un voyage comme veille dans la nuit.
La nuit.
Comme veille dans la nuit. Comme veille dans la nuit. Comme veille dans la nuit.
La nuit et l'hiver.
Dans la nuit.
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 Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste sur 89.4 FM et www.radio-libertaire.net. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la nuit noire ce soir en direct, bien évidemment, sur cette même antenne hein, que vous pouvez soutenir en vous procurant une carte d'auditeur, carte d'auditrice. Elles sont disponibles du côté de la librairie du Monde Libertaire au 145 de la rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez également la souscription des amis avec un ESN hein, de Radio Libertaire, bien sûr, avec un ESN, bien évidemment, qui se déroule ainsi. Vous remplissez un petit formulaire qui permet à la radio de prélever sur votre compte bancaire une somme la plus rondelette possible. Je rigole, hein, bien évidemment. Une somme mensuelle pour permettre à Radio Libertaire de se financer, puisque Radio Libertaire vit grâce au soutien de ses auditeurs et auditrices depuis 42, 43, quelque chose comme ça. Hein. C'est quand même pas mal. Et un grand merci encore une fois à celles et ceux qui peuvent participer à cette souscription. Et bien évidemment, nous avons, par les temps qui courent et puis d'une manière générale, hein, nous sommes dans un ensemble qui s'appelle le capitalisme. Et bien évidemment, nous avons un grand nombre d'amis avec AESN qui n'ont pas les moyens de participer à cette souscription. Ils et elles sont néanmoins nos amis, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà. Vous avez également les autocollants de Radio Libertaire qui pour certains sont très beaux, pour d'autres sont bourrus. Pour les uns les autres, bah, chacun fera sa propre idée sur la question, hein, fera sa propre